Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Docteur Dre, avec le morceau Still Dre. C'était pas mal, non, comme choix pour accompagner le vœu de mon invitée, Anne, la semaine passée. Enfin, je dis ça, hein, tout le monde n'a pas envie de se trémousser sur des basses du siècle dernier. Vous savez quoi? Je vais vous faire un terrible aveu pour ouvrir ce nouvel épisode. Jusqu'à ce début d'année 2017, j'écrivais le mot « algorithme » avec un Y. Alors, pas le Y de la génération éponyme, mais celui du rythme, la musique, encore et toujours, quoi. En même temps, je n'écris pas le mot « algorithme » tous les jours. Alors, pour ne plus me tromper, je suis allée aux sources de ce mot. Il naît d'un nom propre et d'un nom commun. Le nom propre, Al-Khwarizmi, celui d'un grand mathématicien et astronome perse du 9e siècle. Le nom commun, arithmos, le mot nombre en grec. Sylvain Perronnet, mon invité, ce mot, je pense qu'il l'écrit, ou du moins le pense, tous les jours depuis longtemps, et je crois, au vu de notre discussion, que nous devrions, dans les mois et années à venir, plus que l'écrire, le penser, le questionner, avec ce qu'il charrie de fantasmes, mais aussi et surtout de par sa dimension politique. Le futur commence ici et maintenant. Salut Sylvain.
Bonjour Rebecca.
Merci à toi de participer à l'aventure du futur.
C'est un plaisir.
C'est ça. Je suis très modeste ce matin. Tu me reçois dans tes bureaux.
Tout à fait.
Les bureaux de X-Lab. Mm-hmm. X-Lab qui est un think tank algorithmique.
C'est ça.
Alors tu vas m'expliquer ça dans quelques secondes, mais avant ça, j'aimerais que tu me parles de ce que tu es professionnellement. Tu es chercheur en algorithmie, ça veut dire quoi?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'un point de vue tout à fait basique, ça veut dire que mon métier, c'est de designer et d'analyser des algorithmes, comme le nom l'indique, pour résoudre des problèmes divers et variés. Moi, j'aime bien voir ça un petit peu comme un métier d'ingénieur, en fait, même si à l'origine, je suis chercheur. On a des problèmes à résoudre, généralement des problèmes de calcul ou ce genre de choses, et on met en place des procédés pour résoudre. C'est très pragmatique, hein, il faut résoudre le problème. Quel est le procédé de calcul? Généralement informatique, hein, puisque moi, je suis en algorithmique, donc c'est de l'informatique, qu'on va mettre en place pour résoudre le problème.
J'aimerais savoir quel est ton parcours universitaire pour arriver à être chercheur en algorithmie.
Ouais, alors donc c'est un parcours très classique en fait, donc qui remonte au bac, etc. Mais essentiellement, donc j'ai fait des études en maths, jusqu'à bac plus 5, puis après j'ai fait une thèse en informatique, donc en algorithmique, qui est une spécialité de l'informatique, en algorithmique et complexité, qui est l'analyse des algorithmes. Ensuite, j'ai un peu navigué, j'ai essayé de monter une première entreprise après ma thèse, etc. Enfin bon, il y a eu plusieurs péripéties. Au final, à un moment donné, je suis devenu maître de conférence en informatique à la fac d'Orsay, donc sur le plateau de Saclay. J'ai été chercheur dans une équipe mixte avec l'INRIA, et il y a quelques années, je suis devenu professeur des universités à la fac de Caen, où j'ai dirigé quelques mois l'équipe locale en algorithmique. Et puis, à un moment donné, j'ai choisi de quitter le milieu académique, pour plein de raisons liées à plus de moyens, etc., les difficultés globalement dans le milieu académique public. J'ai écrit un post de blog là-dessus, hein, les gens peuvent aller le voir s'ils le veulent.
Ah ben, je mettrai les références, tu les références, donneras.
Tout à fait, oui. Voilà, mais je ne veux pas faire pleurer les gens, donc après, j'ai décidé donc de changer un peu mon fusil d'épaule et de créer les X-Lab, et donc qui est une entreprise, mais qui a pour objectif de faire de la recherche en algorithmique, et pour proposer des leviers de croissance en fait aux entreprises par rapport à ça. On fait de la formation et puis on fait de la prestation algorithmique. Si quelqu'un a un problème, je sais pas, créer un système de recommandation, bah, on l'aide, on l'assiste, on peut le faire pour lui, on peut analyser des données, voilà. On est dans tous les métiers, data science, machine learning, hein, c'est les mots à la mode en ce moment. Voilà, donc nous, notre métier, c'est de créer des procédés algorithmiques en rapport avec ça.
Et tu es également directeur scientifique de Quant. Alors, j'aimerais que tu expliques pour une néophyte comme moi, en quelques mots, Quant, Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors Quant, Quant c'est un moteur de recherche, donc ça, je pense que c'est une notion assez balisée maintenant. Et c'est un moteur de recherche qui est différent des autres, donc c'est la vision du fondateur, hein, Éric Léandry, qui est un moteur de recherche qui respecte la vie privée. Donc en fait, la mission qu'il a donnée à ses équipes, par exemple à moi en tant que directeur scientifique, c'est tout doit être fait pour qu'on ne puisse pas savoir, nous, moteurs de recherche, qui sont les personnes qui font telle ou telle recherche. Alors, l'idée, c'est vraiment le respect de la vie privée jusqu'au bout. Alors ça a plein de problèmes techniques, mais d'un point de vue social, c'est vraiment intéressant parce que le moteur de recherche, c'est vraiment celui qui sait tout des personnes parce qu'on lui confie toutes les choses, même les plus intimes. Et il y a cette problématique de, on peut finir par savoir qui fait telle recherche, pas une recherche par exemple médicale. Mais après, on sait beaucoup plus que ça parce qu'on a aussi dans un moteur standard la séquentialité des recherches. J'ai fait une recherche sur une maladie, après j'ai cherché l'adresse d'un centre médical, après etc etc. Et donc ça dit beaucoup sur les personnes. Nous, ça c'est quelque chose chez Quant qu'on s'interdit de faire et techniquement qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les données pour le faire. Et donc la vision, c'est de dire, on veut rendre aux gens leurs données, le contrôle de leurs données et garantir qu'on respecte leur vie privée.
Ouais. Alors je repense à une actualité qui date de quelques années, je pense, sur une épidémie de grippe, où en fait les pouvoirs publics avaient eu du mal à anticiper l'ampleur de l'épidémie. Et alors je ne sais pas si ce sont des chercheurs qui ont un peu regardé ça, ils se sont rendus compte qu'en fait si on avait analysé les données que les gens cherchaient sur les moteurs de recherche, eh ben, on aurait pu voir qu'en fait il y avait une telle masse de recherche qu'en fait qui montrait que l'épidémie était assez importante. Donc je trouvais ça assez dingue et je me disais la collecte de données, elle peut être mise au bien là pour le coup d'un enjeu de santé publique par exemple.
Alors il y a plusieurs choses sur cette histoire hein, parce que donc il s'avère que pour ce problème-là en particulier, les résultats étaient un peu plus étaient un peu survendus, on va dire ça comme ça. Mais il reste que on peut faire ce genre de choses. Ça c'est vrai. Après, là, il n'y a pas de violation de la vie privée, en fait, puisqu'on ne sait pas qui a cherché, qu'est-ce que je dois faire, quel médicament parce que j'ai de la fièvre, etc. Qu'on ne sait pas qui a fait les recherches. Il suffit de savoir que, globalement, beaucoup de personnes ont fait ces recherches pour s'apercevoir qu'il y a littéralement un trend, hein, puisque là, en l'occurrence, c'est des résultats qui étaient liés à Google. Donc, Google a un produit qui s'appelle Google Trends. Voilà. Et effectivement, on peut faire des choses. Et c'est effectivement pour le bien de la société, c'est à décider. En tout cas, c'est une information qui peut être utilisée pour faire le bien. Après, c'est l'information, c'est toujours pareil. Hein, elle ne fait c'est pas elle qui fait le bien ou le mal. C'est les gens qui ont cette information qui décident quoi faire. Si derrière il y a une politique de santé publique adaptée, c'est une information qui est intéressante. Si la politique de santé publique n'est pas adaptée, c'est probablement un fiasco derrière. Mais en tout cas, effectivement, c'est plus d'informations et donc ça pourrait éventuellement être utile.
Alors, intégrer la notion d'éthique, l'éthique dans un business model d'une entreprise, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Est-ce que justement ça pose des vrais défis pour toi, directeur scientifique, de faire bosser toutes les équipes en disant dans le cahier des charges, il y a on ne veut pas avoir cette information-là, etc.
Alors c'est un vrai défi technique, c'est un défi algorithmique, c'est un défi à tous les niveaux. En fait, c'est un défi technique parce qu'on s'interdit de récolter certains types d'informations. Déjà, comment on fait pour ne pas récolter ?
Arriver à ses fins sans passer par cette...
Comment on prouve qu'on ne récolte pas ? Et comment ensuite, sans cette information, on produit quand même des résultats de qualité ? Donc il y a vraiment à tous les niveaux des choses difficiles. Ça veut dire qu'on met en place des algos qui sont différents déjà des autres. Nous, on a une information en tant que moteur de recherche qui, elle, est publique, qui est ce que contiennent les sites web. Et par contre, on n'a pas cette information de qui sont les personnes qui viennent sur les sites web à tout moment. Et donc, il faut voir, est-ce que l'information des sites web seulement suffit à déterminer quels sont les sites qu'il faut mettre au regard des requêtes posées par les gens. Et donc, effectivement, on a un problème à résoudre, hein, qui est le même que les autres, mais on n'a pas les mêmes informations que les autres pour résoudre. C'est un vrai challenge technique qu'on arrive, bien sûr, à passer sur certains points. Après, il y a des points sur lesquels, et bien évidemment, on ne pourra rien faire. Si on n'a pas de données sur une personne, de personnalisation, on ne peut pas personnaliser les résultats. Je ne peux pas faire les résultats pour toi, Rebecca, si je ne sais pas que c'est toi. Par contre, je peux faire des résultats qui vont convenir à ta requête si elle est suffisamment bien exprimée. Et donc, on peut faire des choses. on essaye de faire le maximum. Après, c'est aussi un choix de société, hein. Nous, on propose un moteur de recherche qui fait ce respect de la vie privée. On n'oblige personne à l'utiliser. Mmh. C'est pas nous, on a cette vision qui est celle du moteur. Il faut qu'il y ait une multiplicité de visions, en fait, pour que les gens puissent décider de faire quelque chose. Mmh. Aujourd'hui, si je fais des requêtes et je ne veux que personne sache que c'est moi, mmh. je vais sur Quant. Ouais. Si j'ai une requête qui nécessite de la géolocalisation, une connaissance de ma personne et tout, je peux aller la faire chez quelqu'un d'autre. Mmh. Je vous laisse deviner chez qui vous pouvez la faire. Ouais. Il y a plusieurs autres acteurs. Mmh. Et voilà, il y a un scénario d'utilisation. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas une obligation pour tout le monde d'aller chez quelqu'un qui va s'asseoir sur certains principes qu'on peut avoir à certains moments. Mais après, à partir du moment où il y en a pour tout le monde, moi, je pense que la mission est remplie.
Ouais. Alors j'aimerais, parce que tu as parlé justement de choix de société, qu'on se projette tout de suite en 2050, dans 33 ans. Alors la question est très ouverte, je ne sais pas par quel bout tu souhaites la prendre, mais quand j'aurai 70 balais, comment j'accéderai comment j'utiliserai les interfaces numériques qui me seront proposées pour avoir de l'information? Est-ce que je serai toujours dans un asservissement volontaire à quelques les GAFA aujourd'hui, mais qui auront peut-être d'autres noms? Ça sera peut-être ceux venus de Chine, voilà, ouais. qui sont aussi très forts. Enfin, ouais.
Alors, c'est vraiment une question très large, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Alors, il y a plusieurs choses. La première question, la plus simple, hein, peut-être, c'est celle sur l'accès, c'est comment on interagira avec tout ça. Pour l'instant, on va quand même vers une diminution au fur et à mesure de la lourdeur des interfaces. Donc ça, moi, je crois, en tout cas, c'est un peu le chemin que tout le monde a l'air de prendre, et toutes les entreprises de la tech travaillent là-dessus, qu'on va aller vers des interfaces de plus en plus légères, et on est tous sur, par exemple, l'interface vocale. Parce que y a vraiment, enfin, c'est l'interface naturelle, hein, oui. Quand on interagit avec les gens, on parle. C'est d'ailleurs ça qui caractérise beaucoup l'être humain, et qui nous a probablement fait accéder à l'intelligence. Donc,
Et d'où l'intérêt des podcasts.
Exactement, tout à fait. on a cette problématique d'une interface beaucoup plus simple, épurée, vocale, et avec des problématiques techniques très fortes, hein, pour nous, parce que on n'exprime pas du tout les mêmes idées de la même manière quand on parle et quand on écrit.
Oui.
Notamment à l'oral, on est moins réfléchi, plus spontané, ce qui est plus difficile. Par contre, à l'oral, il y a un avantage. On parle plus mal qu'on écrit généralement.
Oui.
Par contre, il y a un avantage, c'est qu'à l'oral, on n'est jamais paresseux dans la reformulation. Mm-hmm. Si on voit que la personne ou l'objet ou l'entité qui interagit avec nous est un peu à la ramasse, tout de suite, en fait, on reprécise. Mm-hmm. Quand on discute avec quelqu'un au bar ou ailleurs, hein, mais,
oui.
si la personne a l'air un peu fatiguée et qu'on voit qu'elle ne comprend pas, on réexplique différemment.
Mm-hmm.
Et donc, dans le procédé de restitution orale, il y a ça. Donc, ça, à la fois, c'est plus dur et c'est plus simple pour nous.
Mm-hmm.
Après, ça a des très gros impacts. Hein, quand on est sur des interfaces, notamment pour un moteur de recherche vocal, on ne peut pas donner 10 résultats. On peut donner un résultat, peut-être deux. Donc là aussi, il faut une meilleure qualité de résultat. Enfin voilà, ça sur la partie interface, moi je pense qu'on arrivera à ça assez rapidement en fait.
Mm-hmm. Donc on sera chez soi, on parlera
un
assistant vocal ou quant.
Voilà, peut-être. Ça je ne sais pas, mais peut-être. En tout cas, on parlera un peu dans le vide et puis quelqu'un nous écoutera. Et alors, c'est d'ailleurs tout le problème, puisqu'en ce moment on en parle beaucoup. Ouais. Quelqu'un nous écoutera, qui nous écoute
ouais,
en fait.
Qui nous écoute.
Et là on arrive dans les problématiques en fait qui sont des problématiques sociales. C'est qui peut nous écouter? Qu'est-ce qu'on accepte de ce point de vue-là? Est-ce que techniquement on va vers des choses qui sont centralisées et donc on parle et ça part dans un serveur, on ne sait pas où, sur le cloud comme on dit, mais enfin le cloud ça n'existe pas, hein, c'est des serveurs qui sont quelque part. Donc ça part chez quelqu'un qui écoute tout le monde en fait et qui répond. Ou est-ce que on arrive à créer des choses qui sont décentralisées et puis on parle et ça reste chez soi et puis voilà, il y a un mécanisme qui fait que on a une réponse qui est faite de manière mixte entre quelque chose chez soi, quelque chose ailleurs. C'est là on a des choses qui sont un peu plus complexes à déterminer, mais avant même de déterminer techniquement ce qu'on veut, il faut déterminer socialement ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un device qui nous écoute, à qui on répond, et en fait on ne sait pas qui est derrière, c'est passé une personne, des groupes de personnes, un état, une corporation qui a quelque chose à vendre. Là on rentre dans un vrai choix social. C'est là où il y a une vraie problématique, en fait.
Mmh. Et alors justement, ce choix social, finalement, il irrigue beaucoup d'épisodes du podcast. Est-ce que tu penses qu'on peut imaginer qu'on aura les individus en général, on aura atteint une certaine maturité numérique, quelque part, où on se posera, que tous on se posera cette question de qui nous écoute, qui a accès à nos données, parce qu'aujourd'hui, voilà, on utilise des moteurs de recherche, toute la moindre application sur notre smartphone nous géolocalise, nous propose, on commence à avoir des poches qui nous disent « Ah bah, t'es là, il y a le café juste à côté, là, qui est bien noté. » Enfin, c'est voilà, cette maturité pour se dire « Je ne peux pas confier mon intimité, mes déplacements, etc. » à une entreprise qui revend, etc. quoi.
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de maturité, soyons clairs, globalement, il n'y a pas de maturité technologique, où il n'y a pas, ce crossover entre la maturité technologique et la maturité sociale. Donc il y a des gens qui ont une maturité sociale, ils comprennent les enjeux, etc., mais ils ne comprennent pas forcément la techno. Il y a ceux qui comprennent la techno et pas le social. Enfin voilà, on peut voir tous les cas de figure. Et les gens se posent pas tellement la question parce que pour l'instant on est dans un espèce d'Eldorado où arrivent des choses tellement impressionnantes, c'est un peu la magie, etc. Et là, la première chose à faire, c'est effectivement d'essayer peut-être d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent de mieux en mieux la technologie. Alors c'est assez amusant parce que les X-Lab, en fait, on a une baseline qui est d'aider les gens à prendre des décisions dans une société de plus en plus complexe à cause de la technologie. Et là, pour l'instant, on en est là. On a cette problématique de... il faut que la société comprenne les enjeux sociaux cachés derrière la technologie. Alors, on en avait parlé un peu en off avant le podcast, mais c'est vraiment cette notion de... Pour un algorithme, en fait, l'algorithme, il n'existe pas tout seul dans le vide, il existe dans un univers social, c'est un fait social, et ce qui compte, en fait, c'est une notion qui est un peu différente que la notion de mécanisme, qui est le croisement entre, ou l'interface entre l'algorithme, objet technique, et l'être humain, objet social. Et donc, de voir comment les choses se passent entre
les
deux. Et
puis les données aussi.
Et les données, sachant que les données, quelque part, c'est transversal à l'algorithme et l'être humain. C'est-à-dire, les données, un objet informatique, c'est des données. L'être humain, il est représenté dans l'univers virtuel des algorithmes par des données aussi. Donc, en fait, c'est peut-être le langage commun entre les deux, les données. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est l'interface entre les deux. Et on le voit déjà partout. Un moteur de recherche, c'est un mécanisme. C'est-à-dire, on fournit des résultats. Ces résultats, on ne peut pas dire formellement s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Ils sont bons ou mauvais parce que des êtres humains estiment que ça remplit leurs besoins ou pas, etc. Donc on est déjà en prise en fait entre les deux. Et puis après, on va avoir des algorithmes de plus en plus. C'est là où on a cette forme de lâcher prise dans la société où on dit voilà, on va faire un algorithme pour prédire le crime, un autre pour dire à nos jeunes quelles études ils doivent faire, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, ces algos, ils ont un vrai impact social. Si on dit à quelqu'un, tu n'as pas le droit de faire des études de médecine, tu as le droit d'en faire, c'est très structurant pour le reste de sa vie pendant des années. En France, on sait à quel point les diplômes, les études, c'est important. Donc en fait, on est en train littéralement de structurer la vie des personnes. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on accepte, comment on l'accepte, etc. Est-ce que c'est...
Parce qu'en gros, s'il y avait une fuite en avant, on pourrait arriver à un espèce de déterminisme technologique.
Tout à fait. Alors, ce qui se passerait, c'est comme souvent, ce qui se passe, c'est que quand on laisse en roue libre un peu tous les mécanismes d'apprentissage automatique, algorithmique, ils finissent par apprendre les biais des êtres humains et à les amplifier, en fait, parce qu'ils sont plus efficaces que les êtres humains. Et donc, imaginons qu'on prend un mécanisme d'orientation qui est un peu biaisé, à cause d'un déterminisme social, par exemple, ça existe, c'est très clair. Si d'un seul coup, on réencode ça dans un outil informatique, simplement, on va avoir un déterminisme social qui va être poussé à son paroxysme parce que c'est plus efficace. Et donc, on va amplifier les problématiques de la société. Et pour le futur, c'est ça, en fait. C'est qu'on est en train de construire un ensemble de mécanismes qui ont deux voies possibles, ou bien ils vont amplifier au maximum tous les travers de notre société, ou bien, si on arrive à quelque part se mettre ensemble, etc., ils vont peut-être réussir à les corriger. Peut-être. Et je dis peut-être. Moi, je ne suis pas pour le solutionnisme technologique. Et donc, il y a cette bascule qui est possible. Et dans 33 ans, en fait, c'est très difficile de dire quel chemin on aura pris. Parce que les deux sont possibles aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, si on se revoit dans 10 ans, on se rendra compte qu'on a pris telle ou telle voie. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a les deux voies qui sont possibles.
Et en même temps, si justement on ne se pose pas ces bonnes questions rapidement et collectivement, si on avance trop loin sur un chemin, ça va être compliqué de reculer ou de tailler un autre chemin dans les broussailles pour reprendre un autre circuit. Parce que même quand on voit tous les progrès aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, le deep learning, ça contribue aussi à cette fuite en avant.
Tout à fait. À un moment donné, il est difficile de revenir en arrière, ne serait-ce que parce que On amplifie les biais, et amplifier les biais, ça veut dire faire des choses qui correspondent quand même à une masse de personnes, enfin, un groupe majoritaire de personnes généralement. Et donc, la plupart des gens ont l'impression d'avoir un meilleur service. Et donc, revenir en arrière en se rendant compte qu'en fait, nous, on a été favorisés et pas les autres, et donc il faut revenir en arrière pour plus d'équité sociale, en fait. Je sais pas si c'est le bon terme, parce que je suis pas sociologue, moi, mais c'est très difficile, parce que pour certains, c'est pas intéressant. Pour les autres, c'est difficile d'accéder, et puis ça impose des changements techniques, donc c'est très, très compliqué. D'autant plus qu'il faut pas oublier que les opérateurs aujourd'hui ne sont pas des États, ce sont des corporations qui, eux, sont guidés par un principe qui est différent, qui est plutôt un principe d'avidité, je ne le dis pas dans le sens forcément négatif du terme, mais l'objectif c'est une amplification de profit, et donc à un moment donné, renoncer au profit pour revenir en arrière pour plus d'équité dans la société, ce qui va se passer c'est que les opérateurs industriels vont dire que ce n'est pas leur rôle, probablement. Et donc là il y a une question à se poser, et c'est la question d'ailleurs du rôle de l'État.
Mais oui, parce qu'une régulation, c'est peut-être de régulation dont on a besoin rapidement. Mais en gros, si je reprends les GAFA, on peut leur dire, l'Europe peut leur dire, voilà, vous êtes attention, monopole et compagnie. Les États disent, vous n'avez plus le droit de collecter ces données ou du moins d'en retirer des profits. Mais cette régulation, elle ne peut pas venir d'un État, il faut qu'elle soit internationale,
C'est très très difficile, surtout que l'avantage qu'ont les grands industriels, en fait, c'est qu'eux, ils ont une vision souvent internationale, et donc ils peuvent optimiser, et donc ils peuvent jouer des partitions très différentes, selon, même en Europe, selon les pays de l'Europe. On voit comment ça se passe, par exemple.
Ils sont capables de négocier avec la Chine, par exemple, pour que les accès soient...
Ils peuvent négocier avec un pays différemment d'avec les autres, même si ce pays est dans un conglomérat de pays comme l'Europe. C'est le cas de la fiscalité, par exemple, des GAFA, c'est l'exemple vraiment très caricatural. Et effectivement, oui, on a cette problématique où la volonté de différentes entités en action ne sont pas forcément les mêmes.
J'ai l'impression à t'écouter que les questions, les enjeux sont plus sociopolitiques que techniques. Et on entend beaucoup aujourd'hui sur... en gros, on entend dire... si on ne sait pas coder demain, c'est comme être illettré. Et on dit, il faut que chaque enfant apprenne à coder, mais finalement, est-ce que c'est ça l'essentiel, ou c'est pas plutôt de comprendre les enjeux sociopolitiques qui sont dans les outils?
Moi, là-dessus, j'ai une opinion très claire et très marquée. Savoir coder, c'est très bien, mais c'est pas du tout ça qui est important. C'est un plus, et ça aide pour l'emploi, etc., instantanément. Peut-être dans 10 ans, ça servira plus à rien. Mais comprendre les enjeux, c'est beaucoup plus important. Dire que savoir coder, c'est nécessaire aujourd'hui pour comprendre le monde dans lequel on vit, c'est la même chose que de dire qu'il est indispensable de savoir bricoler, monter un mur, etc., pour comprendre, quand on achète une maison, ce qui se passe. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc, en fait, c'est un plus, c'est bien, ça aide à trouver du boulot, etc., mais c'est pas indispensable. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment ça fonctionne, comprendre par exemple, comprendre ce qu'est, quand on parle d'intelligence artificielle, ce qui est un mot galvaudé qui ne veut absolument rien dire. Donc on parle en fait actuellement de machine learning, d'apprentissage automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, c'est comprendre qu'il n'y a pas de magie, que c'est, on apprend la structuration de données existantes et on l'applique à des données nouvellement arrivées. Donc on essaye de voir des patterns, des motifs qui étaient dans le passé, de voir si on les retrouve dans des données du présent qu'on extrapole pour le futur. Si on a compris ça, et si on a compris que si on a donc un biais dans les données du passé, on va forcément le retrouver dans toutes les données, et puis donc on va prendre des décisions particulières. Ça, c'est la prédiction du crime. Là-dessus, c'est, on s'aperçoit que tous les crimes ont lieu dans certains quartiers, et donc en fait, on va commencer à mettre la police plus dans certains quartiers, et donc comme il y a plus de police dans certains quartiers, on va trouver plus de crimes, parce qu'on a plus de vision simplement des crimes qui se passent. Et donc on amplifie un biais au fur et à mesure. Donc ça, c'est typiquement ce qui va arriver. Si on comprend que les réponses techniques qu'on pose à ces problèmes entraînent ces biais, on comprend aussi pourquoi c'est problématique, et on comprend peut-être comment il va falloir faire pour les éviter. Et ça, c'est plus important que de comprendre comment on code un algo de machine learning, ce qui, pour la plupart des gens, n'a aucun intérêt, en fait.
Alors, cette question des biais, elle est passionnante, et en même temps, au quotidien, on est tous porteurs de plein de biais.
Tout à fait.
Ou gestes du quotidien. Alors, les biais, on peut parfois parler de préjugés ou même de formatage culturel qui est propre à l'histoire de chacun. Et finalement, les biais, nos biais individuellement, c'est ce qui fait nous des humains et ce qui fait qu'on est chacun unique. Et donc, c'est une vraie question. À la fois, c'est notre humanité, nos biais. C'est par des biais qu'on interagit, qu'on est curieux, qu'on rencontre des personnes, etc. Et à la fois, ces mêmes biais, dans la conception d'outils, d'outils algorithmiques, par exemple, je ne sais pas si l'expression est
bonne. Si, si, c'est une très bonne expression.
Ouais. Et ben, ces biais peuvent nous enfermer dans des cercles, dans des bulles, etc.
Quoi. Ouais, c'est vraiment ce problème de la non-transparence algorithmique et de la conscience que les gens ont de l'existence de ces biais ou pas. Quand on est entre êtres humains, on invite des gens chez soi, il y a des gens de tous les horizons, enfin on espère, tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a toujours un mécanisme correctif naturel.
Ouais.
Si quelqu'un dit quelque chose qui est un peu, qui est clairement biaisé ou qui est même un propos sexiste, etc., il peut y avoir une partie de l'assistance qui dit « Ah ben non, je suis pas d'accord, tu racontes n'importe quoi, etc. » Et donc on a une émulation collective qui corrige en fait, c'est-à-dire que chaque personne a des biais, mais globalement, on en a moins que individuellement. Alors on espère que ça se passe comme ça, même si il s'avère que c'est pas tout le temps le cas. Si on n'a plus cette interface de dialogue, qu'en fait les biais sont imprimés dans une machine totalement opaque, qui prend une décision et qui donne cette décision à tout le monde, et de toute façon les gens n'ont pas le choix, ils doivent faire confiance à cette décision. Mais en fait on n'a plus de mécanisme correctif. En fait on n'a plus les gens qui peuvent dire « Ah non, la machine, tu fais pas bien comme il faut. » Voilà. Et donc c'est là où il y a une problématique. Alors après, il y a beaucoup de gens, les futurologues, qui vont dire « C'est pas grave, en fait, dans le futur, on va mettre en place des nouveaux algorithmes qui vont prendre en compte, etc. » Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, si aujourd'hui, on me dit ce que je dis, c'est qu'on amplifie les biais. Point. Peut-être dans 15 ans, on va savoir faire autrement. Mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc, pour l'instant, on amplifie les biais. Et si on commence à baser notre société sur les résultats de ces machines totalement opaques, on va créer de plus en plus de biais.
Alors, moi qui suis plutôt optimiste, j'essaye de me dire qu'on va avoir cette maturité ou le partage de ces questionnements. Mais pour les porter haut, ça veut dire qu'il faut une demande sociale autour de tout ça. Il faut des acteurs qui portent ces messages-là, alors comme Courte, par exemple, qui contribuent à ça. Mais il faut aussi, sans doute, je ne sais pas, des associations qui portent ces messages-là. Il faut que ça remonte au niveau des États, l'international. Est-ce que tu peux me donner un algorithme qui calcule la probabilité
que ça arrive,
que ça arrive?
Alors c'est compliqué parce que en fait, c'est compliqué. Voilà, je bafouille tellement c'est compliqué. Non, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment. Il existe déjà en France un écosystème. Il y a des entreprises qui sont... il y en a qui s'en fichent, qui sont d'abord des entreprises technologiques, et c'est tout à fait admissible. Si on a une mission technologique, on peut dire qu'on ne se préoccupe pas du reste. Il y en a qui ont en plus cette vision un peu sociale, c'est le cas par exemple chez Compte. Et puis, il y a des acteurs, donc par exemple des associations. Il y en a plein. Je ne vais pas nommer tout le monde, mais il y en a qu'on connaît, sur la Quadrature, etc. Il y en a beaucoup qui luttent, ou qui sont là pour évangéliser les gens, etc. Après, il y a un vrai problème, qui est l'État ne remplit probablement pas complètement son rôle. Et je fais de reproches à personne, on est sur quelque chose qui est nouveau, et puis il y a des problèmes qui paraissent toujours plus immédiats. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit bien, on le voit, mais à tous les niveaux je dis l'État, c'est pas forcément le gouvernement, etc. Ça peut être les collectivités territoriales, etc.
Les pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics. Les gens qui sont en charge dans ces institutions, ils sont pas ni meilleurs ni moins bons que les autres personnes de la population. Donc ils sont pas au courant, ils sont pas tout ça, ils sont pas forcément conseillés. Aujourd'hui, quelqu'un qui a la connaissance de tout ça, il aura plutôt intérêt à aller travailler chez un grand GAFA ou dans une start-up que d'aller conseiller nos édiles, etc. Et donc, effectivement, il y a probablement quelque chose à faire pour que l'État face les pouvoirs publics.
Pouvoirs publics, voilà. Si vous nous entendez.
C'est ça, structure de plus en plus une réflexion sociale autour du fait technologique. Parce qu'il y a des choses qui sont faites sur le fait technologique. Il y a des initiatives gouvernementales ou autres sur l'intelligence artificielle, etc. Et c'est très bien, je le dis et je n'hésite pas. C'est très bien parce qu'en plus, moi, je suis intégré dans ce flux-là, donc je trouve ça fantastique. Mais il faut aussi une réflexion sociale par-dessus. Et c'est assez amusant. Par exemple, on voit dans les grands appels européens, il y a des appels technologiques, il y a des appels sur la sociologie liée à la technologie, etc. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus, bien sûr, d'appels technologiques que sur la réflexion autour de la technologie. C'est normal parce qu'on progresse vers d'abord ce qui va être productif avant ce qui va être réflexif, en fait. Mais voilà, il faut les deux et ce serait vraiment très important que ça se structure.
Et que peut-être le monde de l'académie aussi est peut-être un peu plus voix au chapitre, parce que peut-être que dans le champ académique, les questions de l'éthique, on fait plus facilement les passerelles entre anthropologie, sociologie...
Oui, d'autant plus que moi, venant du milieu académique, dans le milieu académique, on a historiquement une plus grande réflexivité, c'est-à-dire on réfléchit à ce qu'on fait. Et dans le milieu industriel, c'est plus dur, on réfléchit à ce qu'on fait aussi, on ne fait pas n'importe quoi, mais la réflexion, elle est portée sur comment améliorer, etc. Dans le milieu académique, il y a une vraie réflexion sur pourquoi on fait les choses, est-ce que c'est les meilleures choses à faire, etc. Et donc la réflexion est différente. Effectivement, ce serait bien qu'il y ait une plus grande participation du milieu académique. Après, moi, j'ai été dans le milieu académique, et j'appelle de mes voeux une plus grande participation, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'argent dans le milieu académique, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui est chercheur en informatique, qui est enseignant-chercheur, entre son enseignement, l'administratif, l'encadrement, etc., il lui reste malheureusement, c'est vraiment très triste, beaucoup plus de temps pour réfléchir, et il lui reste de moins en moins en tout cas.
Ouais.
Donc, mais dans un monde idéal, il faudrait effectivement que ce soit possible et que les chercheurs en informatique, par exemple, soient au lead pour ça.
Ouais. Sylvain, il te reste à formuler un vœu pour 2050.
Ah oui, tu m'as déjà demandé plusieurs fois.
Ouais, je t'ai dit, Sylvain, pense à ton vœu.
Alors bon, pour tout dire à ceux qui écoutent ce podcast, au début j'avais dit que je voulais la paix dans le monde et
avec
voilà.
Avec le mouvement de main. Tu peux le faire pour la caméra.
Je peux le faire pour la caméra, voilà, le mouvement de main. Non, effectivement, moi je pense que pour le futur, et pas dans 33 ans, hein, mais déjà dès les prochaines années, ce qu'il faut, c'est vraiment un mouvement collectif de prise de conscience de la technologie sur laquelle on travaille, de l'impact qu'elle va avoir. Et ça, je pense que ça passe par vraiment un gros travail éducatif. Et donc, si j'ai un vœu peut-être à donner là maintenant, c'est qu'il serait bien que se structure en France un mouvement éducatif à ces nouvelles technologies et à pourquoi on les utilise et ce qu'elles vont faire en bien comme en mal.
Oui, à l'image un peu de l'éducation populaire, quoi.
Exactement, que tout le monde soit éduqué à ça.
Très bien. Ben, merci beaucoup à toi, Sylvain.
Ben, c'est moi, merci.
Puisque toute réalité se doit aujourd'hui d'être augmentée, cette conversation très réelle pourra opportunément être enrichie de lectures sélectionnées rien que pour vous par Sylvain. 4 livres. The Black Box Society, les algorithmes secrets qui contrôlent l'économie et l'information. Pour tout résoudre, cliquez ici, l'aberration du solutionnisme technologique. La démocratie Internet, promesses et limites. Et enfin, à quoi rêvent les algorithmes, nos vies à l'heure des big data. Les liens vers leurs éditeurs sont dans le descriptif de l'épisode, y compris le lien vers l'article rédigé par Sylvain, quelques bonnes raisons de quitter le milieu académique, il l'évoquait en début de conversation. Et comme nous avons évoqué les biais et leurs algos, alors oui, faut que je vous explique, maintenant que nous sommes intimes, les algorithmes et moi, on se tutoie. C'est algo et reb. Bref, ces biais et leurs algos, qui invisibilisent ou surreprésentent parfois certaines informations, je vous invite à les déjouer en partageant copieusement cette conversation sur les réseaux sociaux. En vrai, faites ce que vous voulez, jusqu'à mon retour, dans 7 jours, mais promettez-moi une chose, d'ici là, soyons toujours curieux.